Et c'est un sujet d'actualité, car, comme je viens d'annoncer, le dimanche prochain, nous allons avoir notre culte dans la salle de notre église ici à Lucie, l'Assemblée du Dieu de Marne-la-Vallée, ou les ADD, comme on le dit souvent. Et les ADD sont une association d'églises évangéliques assez semblable à celle-ci et aux autres églises de notre association baptiste, mais avec certaines différences importantes aussi. Et donc le fait de l'utiliser leur salle la semaine prochaine nous met devant des questions intéressantes. D'autant plus parce que leur bâtiment est juste en face du bâtiment que nous voulons acheter. Donc on sera peut-être, on espère, voisins. Il y a une route qui les sépare, mais quand même, on va pouvoir se voir après le culte, il me semble, à travers la route. Et donc, ces questions ne valent pas juste pour notre relation avec les églises ADD, mais pour d'autres églises aussi. Y a-t-il certaines églises, entre guillemets, qu'il faut éviter complètement? À quoi ça sert d'utiliser des termes comme évangélique, baptiste, protestante, pentecôtiste, conservatrice, libérale, ou vaut-il mieux parler simplement de chrétien et non chrétien? Alors, nous allons aborder ces questions aujourd'hui. Et comme d'habitude, nous allons essayer de comprendre et d'appliquer la parole de Dieu à notre vie individuelle et à notre vie d'église. Le passage que nous allons lire se trouve en Jean 17. C'est dans Jean 17 où Jésus prie ce qu'on appelle souvent sa prière sacerdotale. C'est juste avant sa crucifixion et il prie pour ses disciples et puis pour nous aussi, tous les croyants qui vont venir après. Et l'une des phrases qu'il répète à plusieurs reprises dans cette prière, c'est la suivante. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Ils, ce sont les croyants, et nous, c'est le Père et le Fils dans ce passage. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Et donc déjà, en lisant ça, il faudra se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire, être un comme le Père et le Fils sont un? Dans quel sens le Père et le Fils sont-ils un? C'est l'un des grands mystères de la foi. Et c'est aussi la fondation de notre foi, que Jésus et le Père soient un. Et on y revient. Et nous lirons le texte dans quelques instants. Mais d'abord, si nous allons bien appliquer la parole à notre vie et à notre vie d'Église, il vaut la peine de bien comprendre au moins les grandes lignes de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement au XXe siècle. Je veux dire par exemple, comment se trouve-t-il qu'il y a deux églises à Lucie qui s'appellent Églises évangéliques, mais qui ne font pas partie de la même association, même si elles faisant toutes les deux partie du Conseil national des évangéliques de France, il faut le dire. Et pourquoi y en a-t-il deux? Et pourquoi existe-t-elle tellement de différents types d'églises dans le monde? D'où viennent toutes ces églises? Alors, on pourrait faire tout un séminaire sur cette question, mais je vais essayer de résumer la situation en quatre phases, 1 ou 2 minutes pour chacune. Et le but sera de voir les grandes lignes afin de bien appliquer Jean 17 à notre situation actuelle. Alors, tout au début, bien évidemment, il y avait Jésus et ses disciples. C'est là où l'Église commence. Et l'un des buts de Jésus pendant sa vie était de créer un nouveau peuple de Dieu, comme nous l'avons lu. Un nouveau peuple de Dieu, un peuple centré sur lui-même au lieu de sur la loi de Moïse. C'est ce nouveau peuple qui sera appelé l'Église dans le Nouveau Testament. Tous les gens qui sont unis à Christ par la foi en lui, juifs et non-juifs. Et ça, c'est une idée radicale. Juifs et non-juifs ensemble dans le peuple de Dieu. Et après les évangiles, tout le Nouveau Testament raconte l'histoire de ce nouveau peuple en train de se répandre partout dans le monde par la puissance du Saint-Esprit qu'il avait reçu le jour de la Pentecôte. Et dans chaque ville, les croyants ont formé une assemblée, une église, pour suivre Jésus ensemble. Il n'y avait pas à l'époque plusieurs types d'églises, mais juste des chrétiens, tout court, qui se réunissaient dans chaque ville sous les responsables locaux. et régional. Mais, pendant les siècles après le Nouveau Testament, c'est-à-dire au 2e, 3e, 4e siècle après Jésus, petit à petit, le responsable de l'Église à Rome est devenu de plus en plus influent et de plus en plus puissant. C'est le début de la deuxième phase de cette histoire, l'Église primitive qui devient l'Église du Moyen-Âge. Parce qu'avant trop longtemps, le responsable de l'Église à Rome a été pris comme responsable de l'Église en général. C'est-à-dire de toutes les églises en Europe, en tout cas. Et c'est ainsi que l'idée du pape est née au Moyen-Âge. Un prêtre suprême qui dirige toute l'église par une hiérarchie rigide. Quelque chose qu'il faut dire qui ne se trouve pas dans la Bible. En plus, c'est pendant cette période que d'autres doctrines qui ne se trouvent pas dans la Bible, comme le purgatoire ou la prière à la Vierge Marie, ces doctrines ont été acceptées par cette hiérarchie. Et il y avait d'autres abus aussi, dont certains étaient très très graves, si vous avez étudié l'histoire, vous le connaissez. C'est à cause de tout ça qu'il y a 500 ans, vers l'an 1500, et voici la troisième phase, après l'Église primitive et le Moyen-Âge, il y a 500 ans, Martin Luther et Jean Calvin et d'autres ont commencé à protester publiquement contre cette hiérarchie basée à Rome. Ce système qui était connu à l'époque comme l'Église catholique. Ils ont protesté parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas biblique. Alors, ces deux hommes n'étaient pas les premiers à parler contre ce système, contre ces problèmes. Mais Calvin, un Français, et Luther, un Allemand, ils se sont trouvés quand même à la tête d'un mouvement de protestation contre les responsables de l'Église catholique. Et ils ont fini en sortant complètement de cette structure pour créer une nouvelle Église, une nouvelle sorte d'Église qui ressemblait plus à ce qui existait au premier siècle et qui était fidèle à l'Évangile. C'était le but de la réforme protestante. Et donc, parfois, on appelait ces gens-là protestants, parce qu'ils protestaient contre l'Église catholique. Parfois, on les appelait évangéliques, parce qu'ils insistaient sur un retour à l'Évangile. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle maintenant la réforme protestante. Mais vous avez peut-être constaté quelque chose, quand on parle de l'unité et de la diversité. Cette phase de l'histoire où nous trouvons nos racines, c'était en fait une phase de séparation, de division même. Séparation avec l'Église catholique, mais aussi séparation entre certains groupes de protestants. Car les protestants étaient tous d'accord qu'il y avait de graves problèmes dans l'Église catholique romaine, mais ils n'étaient pas toujours d'accord sur les solutions. Je vous donne un exemple. Il y avait toute une crise autour de la question des vêtements du pasteur. Ouais, je ne sais pas si vous pensez que ce que vous pensez de ma façon de m'habiller. Mais s'il y a un problème, je vous demande simplement de venir en parler et on va trouver une solution. Parce qu'on veut éviter une crise par rapport à ça. Et j'acceptais votre consultation avec ma femme. Mais, alors, c'était pas évident quand même pour les premiers protestants. Parce que si on n'acceptait plus les soutanes armées comme portaient les prêtres dans l'Église catholique, fallait-il maintenant porter des robes noires ou juste des vêtements normaux? La Bible n'est pas précise là-dessus et il fallait décider. Et même si pour nous, avec un peu de recul, nous pouvons voir que celle-ci n'était peut-être pas la question la plus importante, ce genre de choses a créé des divisions dans la communauté protestante dès le début. Et il y avait d'autres désaccords aussi que nous trouvions peut-être plus légitimes, comme par exemple le baptême des enfants. Ni Luther, ni Calvin, les pères de la réforme protestante, ont rejeté la pratique de baptiser les bébés comme se faisait dans l'Église catholique. Alors que d'autres protestants, comme les Mennonites en Europe et les baptistes en Angleterre ont rejeté cette pratique. Donc c'était un temps de division afin de restaurer la vérité. Mais trouver la vérité n'était pas toujours simple, n'était pas toujours évidente. C'est la troisième phase. Alors, il reste encore une quatrième pour arriver à notre situation au XXe siècle. Mais d'abord, maintenant avec cette partie de l'histoire en tête, lisons Jean 17 et essayons d'imaginer ce que Jésus pense lorsqu'il voit l'histoire de son Église, l'histoire de son épouse. Jean 17, on va commencer au verset 6. C'est Jésus qui prie. Et il parle au Père parce qu'il prie. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en moi. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Personne, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du monde. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Ça, c'est nous. Nous sommes ceux qui croient. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Car juste le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. C'est verset 23. Afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Malheureusement, les divisions dans l'Église ont souvent été un mauvais témoignage, un témoignage de manque d'amour. Et notre manque d'unité est souvent un très mauvais témoignage dans le monde. C'est pour ça que Jésus répète la phrase 4 fois, qu'ils soient un comme nous sommes un. 4 fois, il répète. Qu'est-ce que ça signifie alors? Un comme Jésus et le Père sont un. Jésus dit au verset 21, « Moi en toi et toi en moi. » Il le dit plusieurs fois. Ce qui évoque l'image d'être uni avec un lien très fort. Pas juste uni, mais avec une vie partagée, comme nous l'avons vu avec la phrase « être en Christ ». L'un dans l'autre, sans perdre sa propre identité. Et c'est en fait exactement ce que nous voyons avec Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Le Père, Jésus et le Saint-Esprit sont un seul être en trois personnes. Vous connaissez cette phrase, un seul être en trois personnes. Ils ne sont pas identiques, mais ils sont un. Et c'est ce que Jésus prie pour nous ici. Jésus prie que nous, au sein de cette Église, et que cette Église, en relation avec d'autres assemblées, que notre amour nous permet d'avoir une vie partagée, sans effacer la richesse de notre diversité. Ceci dit, il faut noter, il faut absolument noter aussi que Jésus parle dans ce passage, dans cette prière, à plusieurs reprises, de la vérité. Que nous soyons consacrés par la vérité. Nous pouvons avoir nos différences, différences de culture et de personnalité, et parfois même des désaccords, mais nous devons chercher la vérité ensemble. Et peut-être ça vous semble évident, mais parfois on prône tellement l'unité qu'on sacrifie la vérité sans s'en rendre compte. Moi je me souviens quand j'étais plus jeune, avant de commencer mon ministère, j'avais tellement de mal de la rancœur et du manque de respect et d'amour que je voyais entre les croyants de différentes églises, que je me demandais si c'était peut-être pas mieux de nous arrêter complètement d'en parler, comme si ces questions n'étaient pas importantes. Et j'ai exprimé cet avis à un ami plus âgé que moi qui était déjà pasteur. Et cet ami, il était d'accord que les disputes parmi les chrétiens étaient un grand mal dans le monde. Mais tu sais, il m'a dit, j'ai vu dans mon ministère que la mauvaise doctrine est aussi une réelle source de mal. Elle a des conséquences, elle blesse les gens, elle a le pouvoir même de détruire des vies. Et depuis lors, je l'ai vu dans mon propre ministère, nous avons tous, nous et nos églises, nous avons besoin d'être consacrés par la vérité afin de vivre une vie abondante. Et de suivre Jésus. C'est ce que Luther et Calvin ont vu il y a 500 ans. Ce n'était plus possible, ou presque plus, de trouver la vraie vie dans l'Église catholique, au moins comme elle existait à l'époque. Il fallait absolument en faire quelque chose. Au début, pour rester fidèle, vous savez, pour rester fidèle à cette prière de Jésus, beaucoup des protestants ont voulu simplement réformer l'Église catholique. Mais lorsque ça n'a pas marché, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus y rester. L'unité n'était plus possible. La réforme protestante était donc un très bon exemple de la tension qui peut exister entre l'importance de l'unité et l'importance de la vérité. Et c'était bien sûr un cas extrême. Mais cette tension reste un sujet d'actualité, car nous sommes toujours des êtres humains. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes des êtres faillibles et nous voyons comme dans un miroir de manière peu claire, comme le dit 1 Corinthiens 13, 12. Sur cette terre, nous ne serons jamais d'accord sur chaque point de doctrine, que ce soit au sein de notre assemblée ou entre notre assemblée et d'autres. Et pourtant, Jésus nous dit ici que tout en cherchant la vérité, notre unité sera essentielle à notre témoignage. Versets 21 et 23. Afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quoi faire alors? Face à cette tension qui existe parfois entre l'unité et la vérité. J'aimerais suggérer plusieurs choses. D'abord, notons pour qui Jésus prie. Verset 8. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jésus prie ici pour ceux qui ont vraiment reconnu qu'il est sorti du
adultère. C'est-à-dire ceux qui ont reconnu qu'il est Dieu. Pour toutes ces personnes-là, Jésus prie pour l'unité. Il ne met pas d'autres critères. Il veut l'unité entre ceux qui ont accepté qu'il est le Christ, Dieu lui-même. Et puis, il continue dans le prochain verset en précisant pour qui il ne prie pas. Il ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Je l'ai toujours trouvé un peu curieux que Jésus précise pour qui il ne prie pas. Mais en fait, il le fait pour être clair. Ici, il prie pour l'unité de son propre corps, l'Église. Et par définition, les non-croyants n'en font pas partie. Ce n'est pas qu'ils s'en fichent des non-croyants. C'est que c'est uniquement les croyants qui peuvent avoir ce type d'unité, la même unité qui se trouve entre le Père et le Fils. Parce que cette unité se trouve en Christ et en Christ seul. Pour tous ceux qui le reconnaissent vraiment comme Dieu. Et le vraiment est important. Parce que Jésus nous dit aussi que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront forcément sauvés. Parce que c'est une chose de le dire et c'est une autre de l'accepter vraiment, sincèrement. Et certains, il faut savoir, certains dans ce monde, comme les Mormons ou les témoins de Jéhovah, vont utiliser le nom de Jésus sans reconnaître qu'il est vraiment sorti du Père. C'est-à-dire qu'il est Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de l'unité, d'unité avec ce genre de groupe-là. Par contre, avec tous ceux qui ont reconnu que Jésus est Dieu et qui ont mis leur foi en lui comme Seigneur et Sauveur, nous sommes unis avec les autres croyants en lui. Et nous devons chercher à vivre d'une façon ou d'une autre, cette réalité. Deuxième, pour faire face à cette tension qui existe parfois entre l'unité et la vérité, nous devons reconnaître qu'il y a certaines choses dans cette vie qui ne sont pas une question de vérité biblique, mais simplement de nos préférences personnelles. C'est un grand défi des fois de faire la part des choses et voir ce qui est ma préférence et ce qui est une vérité biblique, et c'est pour ça qu'il faut se connaître la Bible. Ces préférences sont souvent liées à notre culture ou notre sous-culture ou parfois simplement à notre personnalité. Des choses comme le style de musique ou le style de prédication, par exemple. Malheureusement, ce genre de différence a déchiré beaucoup d'assemblées. Et c'est vraiment dommage. Si nous sommes un, comme le Père et le Fils sont un, nous devons être capables d'adorer ensemble et de servir ensemble sans avoir des préférences et des goûts identiques. Ça ne devrait pas être nécessaire d'être identique pour adorer ensemble. Même si ces préférences nous amènent parfois à créer des assemblées différentes avec des façons de faire différentes. Une église très traditionnelle, par exemple, ou une église particulièrement adaptée à la culture asiatique, ou africaine, ou française, il ne faut pas s'imaginer que l'une est plus biblique que l'autre, et qu'on ne peut pas être différent et uni en même temps. Le Père et le Fils sont différents, mais parfaitement unis, et nous pouvons l'être aussi si nous avons leur amour en nous. Mais c'est l'amour qui est clé. L'amour et le Christ. Alors, ce sont les deux extrêmes. D'un côté, il y a la vérité essentielle que Jésus est Dieu lui-même, sans laquelle ce genre d'unité n'est pas du tout possible. De l'autre côté, il y a les choses qui ne sont pas une question de vérité, mais de préférence. Et puis, entre ces deux extrêmes, il y a toute une gamme de questions qui sont des questions de vérité, mais qui n'ont pas toute la même importance dans la vie d'une assemblée et qu'il faut apprendre à gérer avec amour. Un exemple, une différence sur les détails de la fin des temps.
ça ne pose pas forcément de grands problèmes au sein du maçonnerie. Dans certains, je l'ai vu, ça a posé des problèmes. Mais ce n'est pas nécessaire. Alors qu'une différence sur la définition du mariage ou sur l'autorité du pape, si, quand même. Mais dans chacune de ces situations, cette prière de Jésus nous appelle à chercher l'unité dans la mesure du possible, sans sacrifier les vérités essentielles. Tout en cherchant à être consacré par la vérité, toujours avec amour pour l'autre. Si je rencontre quelqu'un qui aime Jésus et qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, je me réjouis. Je me réjouis peu importe les désaccords que nous pourrions avoir, parce que c'est un enfant de Dieu. En même temps, cela ne veut pas dire forcément que je vais implanter une église avec cette personne. Nous pouvons être unis en Christ, nous pouvons nous aimer et nous respecter mutuellement sans forcément aller à ce point-là. Mais je ne chercherai non plus à empêcher son ministère. Sur ce point, l'incident en Marc 9 est très instructif. Vous connaissez, il y a les disciples qui viennent à Jésus et ils disent « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de nous. En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. » Est-ce que nous avons la force de dire ça? L'apôtre Paul reprend cette même idée en Philippiens 1. Et dans tous les cas, ce qui compte, c'est que le nom de Jésus soit proclamé. Et que nous gardions tous l'humilité de dire « c'est vrai, bien que je sois vraiment persuadé que de ce que je pense comprendre en lisant la Bible, je ne suis qu'un être humain qui ne voit que peu clair comme dans un miroir. Être convaincu et humble en même temps, ça c'est le signe d'une vraie maturité dans la vie chrétienne. Et vous pouvez lire Romains 14 si vous voulez voir une description de ce genre d'attitude. On peut être convaincu et humble en même temps. Ce qui nous amène à nos frères et nos sœurs de l'Assemblée de Dieu et la quatrième phrase de l'histoire que je racontais tout à l'heure. Cette phrase, c'est celle des réveils modernes. Au 19e siècle, il y avait un réveil dans les églises protestantes du monde anglophone en particulier. Et ce réveil a donné naissance au mouvement moderne évangélique, d'où viennent en fait la plupart des églises qui s'identifient comme évangéliques de nos jours. Et au sein de ce réveil évangélique, un deuxième mouvement s'est produit, ce qu'on appelle le mouvement pentecôtiste ou charismatique. Le point fort de ce mouvement était une ouverture exceptionnelle à l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant. Un point faible était une tendance à lire la Bible d'une façon qui mettait trop l'accent sur un seul aspect de cette œuvre, comme le parler en langue, par exemple. Et un autre point faible, lié au premier, était d'enseigner qu'on pourrait perdre son salut. Un enseignement qui revient facilement à un salut par les œuvres plutôt que par la grâce seule. Ce qui était ironiquement justement l'un des points des désaccords principaux entre les premiers protestants et l'Église catholique. Et depuis lors, donc, le monde évangélique a tendance à se diviser en deux parties, les églises évangéliques pentecôtistes et les églises évangéliques traditionnelles, entre guillemets. Les églises baptistes comme celle-ci viennent en général du courant traditionnel, alors que les assemblées de Dieu viennent du courant pentecôtiste. Mais ça, c'est parler en termes généraux. Et il faut savoir qu'au sein de ces deux courants, il y a une grande, grande diversité. Par exemple, les églises qui enseignent l'évangile de la prospérité, en général, et il faut dire, comme on l'a dit souvent, l'évangile de la prospérité est un faux évangile. Ce n'est pas un évangile, finalement. Ces églises-là s'identifient souvent comme pentecôtistes. Mais ce serait vraiment injuste d'imaginer que tous ceux qui s'identifient comme pentecôtistes pensent pareil, que les assemblées de Dieu pensent pareil. Il suffit de lire en fait leur confession de foi pour savoir que ce n'est pas le cas. De même, certaines églises qui s'identifient comme baptistes rejettent complètement certains dons de l'esprit. Ce qui n'est pas le cas pour toute église baptiste. Et là, il suffit de lire notre confession de foi et notre règlement intérieur pour savoir que ce n'est pas le cas ici. Et si vous n'avez jamais lu notre confession de foi ou notre règlement intérieur, je vous encourage de le faire. Ils sont disponibles sur notre site web. Donc, ce sont les grandes différences en général. Mais il faut faire attention quand on parle en termes généraux. À quoi ça sert donc de parler de tout ça? Alors, d'abord, soyons clairs que l'idée n'est pas de mettre des étiquettes sur les gens. Lorsque nous utilisons ces termes comme baptiste, pentecôtiste, évangélique, protestant ou quoi que ce soit, pour parler de nous-mêmes ou des autres, ce n'est utile que dans la mesure où ces termes nous aident à mieux comprendre les uns les autres. Dès que ça devient un préjugé, c'est devenu un outil de l'ennemi. Quand moi j'ai rencontré le pasteur Samuel de l'église Assemblée de Dieu, par exemple, sachant ce que je sais sur les églises ADD, j'étais assez confiant qu'on aurait beaucoup de choses en commun, que nous aurions une forte unité en Christ et que nous pourrions échanger librement et prier ensemble. Et c'est ce que nous avons fait il y a quelques semaines. Nous avons prié ensemble pour nos assemblées, pour cette ville, pour ce pays, pour ce monde. C'était un moment fort de prier ensemble avec un frère comme ça. Et je savais d'où il venait et ce qu'il croyait. Pourtant, nous savions aussi tous les deux que sur certaines choses, nous avions des différences. Mais que ça ne nous empêcherait pas de parler ensemble et de prier ensemble. Et de parler de la vision de Dieu pour cette ville ensemble. D'où, en fait, son invitation que notre église utilise leur salle. Tout comme notre assemblée, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette assemblée-ci, il y a des années, a prêté notre local à cette assemblée-là. Et maintenant, ils font pareil pour nous. Parce que des deux côtés, on cherche le bien de l'église que Jésus aime, le bien de l'épouse du Christ. On ne cherche pas le bien juste de notre assemblée, même s'il existe des vrais désaccords entre les deux. Parce que certes, nous ne sommes pas identiques aux églises ADD, nous avons des styles différents, et aussi certains points de vrais désaccords sur la vérité biblique. Mais nous sommes bien d'accord sur l'essentiel. Nous aimons tous Jésus et nous prêchons tous l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité pour payer pour nos péchés, afin que nous puissions avoir une relation avec Dieu. Et donc, nous ne sommes pas là pour faire la concurrence. Et si nous allons être juste en face de leur bâtiment, il faut être bien conscient. Et eux aussi, et on leur a dit, on n'est pas là pour faire la concurrence. Naturellement, je préfère que les gens viennent dans notre assemblée. Mais cela n'est pas ma décision. C'est Dieu qui décide. Et c'est très important de se souvenir de ce fait. C'est Dieu qui décide. C'est Jésus qui bâtit son Église. Laissons Jésus bâtir son Église de la façon dont il choisit. Rappelons-nous toujours que c'est lui qui fait naître la foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. S'il amène les gens dans une autre assemblée pour accomplir ça, c'est sa décision. Nous, nous ne sommes que des ouvriers. Et nous devons nous réjouir lorsque nous le voyons en train de bâtir son église, même si c'est à travers une autre assemblée qui n'est pas la nôtre. Et je remercie Dieu que le pasteur Bieu a eu cette attitude. Parce que sinon, il aurait pu dire non, on n'est pas d'accord avec vous, les baptistes. Et donc, aucune question d'utiliser notre salle. Vous, vous ne croyez pas dans ceci ou cela? Donc, on ne vous aide pas. Mais, ils n'ont pas. Et je prie que ce sera que le début d'une collaboration bénéfique entre nos deux assemblées et que cette collaboration soit un beau témoignage auprès de nos voisins. Rappelons-nous la prière de Jésus, que notre unité soit un témoignage du fait que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Cette semaine, cette année, je vous encourage, prions comme Jésus a prié pour l'unité de son Église et que nous soyons tous consacrés par la vérité. Prions pour les églises à Bussy. Prions pour la ville de Bussy. Que le témoignage de nos deux assemblées et celui des autres églises ici à Bussy, comme les deux qui se réunissent dans notre local actuellement, que nos témoignages soient une lumière qui révèle la gloire et l'amour de notre Dieu, Jésus-Christ, et que son amour et sa vérité soient évidents